Le Gros Cast, le podcast de Gros Pixels. Des pixels et du podcast.
Bonjour à tous et à toutes pour ce premier numéro de la deuxième saison du Gros Cast. Après un sublimité passé au soleil ou devant nos écrans, les joyeux drills sont de retour pour vous faire rire, rêver ou réfléchir, ou, comme on dit dans notre jargon, rivéchir. C'est l'humour de linguiste. Pour ce premier numéro, nous allons revenir tout d'abord sur l'article de Sabine Japan sur Thundercats, jeu dérivé d'une série télévisée mieux connue sous une nouvelle latitude sous le titre de Cosmocats. Avant de nous interroger sur les reboots de vieilles séries sur les plateformes récentes. Alors pour ce premier numéro de la deuxième saison, j'ai le plaisir tout d'abord de recevoir Seb Japan. Bonjour Seb.
Eh bien bonjour à tous.
Comment ça va?
Pas trop mal, pas trop mal.
L'été s'est bien passé?
Oh, l'été c'est loin maintenant, tu sais, moi j'habite dans le nord-est de la France, donc l'été ça a duré une semaine à peu près, de début août à mi-août.
D'accord, je vois ça. J'espère quand même que tu as fait plein de vitamine D en t'exposant judicieusement pendant cette période.
J'ai surtout fait plein de couvertures.
Et nous recevons également Tonton Ben. Bonjour Tonton. Alors, même question, l'été.
Ah oui, pas pareil.
Comment cela s'est passé?
Oui, ben, j'habite dans le Nord, donc c'est une semaine aussi, mais c'était il y a 10 ans.
D'accord, je vois. Et nous recevons également aujourd'hui pour ce premier numéro, Karl. Bonjour Karl.
Salut Mathieu.
Ça va?
Bah écoute, tu m'as déjà vu à Eman.
Comment s'est passé ton été?
Occupé.
D'accord, c'est sûr.
Sinon, il a fait beau.
Bah écoute, tu sais, dans le sud-ouest, dans le sud-ouest, ça va. Et puis, le peu de vacances que j'ai eu la chance d'avoir ma femme qui travaillait beaucoup. Donc, je suis tombé dans un puits sans fond qui s'appelle Skyrim. Et je remercie grandement Bethesda, dans sa grande magnificence, de n'avoir pas encore pour l'instant baissé le prix de l'add-on Dawnguard. Merci Bethesda.
La question que tout le monde se pose, Karl, c'est que, moi j'ai envie de te poser cette question-là. Moi aussi, à l'époque, j'ai été un aventurier comme toi, et puis j'ai pris une flèche dans le genou. Comment est-ce que tu gères cette expédition dans le monde fabuleux de Skyrim?
Eh bien, je boite.
Alors, nous allons donc parler de Thundercats. Sur micro, mais avant d'aborder la question du jeu, j'aimerais que l'on refasse un petit pitch sur la série animée d'origine, donc Cosmocats ou Thundercats. Qui peut me chantonner le générique?
Le problème de Cosmocats, c'est que, c'est quand même une chanson rock assez exigeante, hein, qui nécessite un certain talent. Et mais si, vraiment, mais surtout le plus dur, je pense, c'est d'arriver à prononcer les paroles sans éclater de rire, parce que elles veulent pas dire qu'on...
Vas-y, Seb, je sens que t'es en transe, là.
Donne-nous un aperçu en plus, des dites paroles.
Alors, plutôt que de vous la chantonner, je vais vous la réciter, ce qui donnerait quelque chose comme Cosmocats extraterrestre, Cosmocats, c'est vous, qui avec tous les pouvoirs, Cosmocats, à vous.
C'est beau, on dirait du Prévert.
Oh, c'est beau.
On dirait du Césaire.
Du Prévert.
Pour l'instant, oui.
Alors, ce qui est bien, c'est que c'est une chanson qui prône aussi l'amour et l'amitié, parce qu'il y a un couplet qui nous dit « Les mutants les plus farouches voudront vous chasser, tous pour un et un pour tous, vous les écraserez. »
Donc Cosmocats, dessin animé d'aventure, mettant en scène une série de héros félins, peut-on dire, c'est ça le principe. Ce sont des lions, des panthères, des tigres qui se battent contre des méchants humanoïdes, des momies, des mutants divers. C'est bien cela, donc.
Oui, c'est à peu près ça. Ouais.
D'accord.
Mais avant d'aller plus loin, je vais t'avouer un truc, Mathieu, et l'avouer à nos auditeurs aussi. Bien que j'ai écrit cet article sur Thundercats, Cosmocats, je suis pas spécialement fan du dessin animé qui en toute honnêteté, est par rapport à la concurrence de l'époque, n'était pas franchement génial. Par contre, ce qu'il avait de marquant, c'est son générique.
Le générique était vraiment bien animé. Ah oui, mais ça, c'était incroyable. Plus ou moins la norme.
Mais tu vois, c'est un peu le problème. Je préférais les Kersaïs pour rester dans les chats, parce qu'il y avait des gonzesses. Et puis toi, tu préférais des chénins, parce que tu préfères les furies. Mais bon.
Non. Tu préfères Kersaïs, parce que le générique de début de Kersaïs, c'était un peu un mini-film de cul. C'était le plus X qu'on avait à notre disposition si on n'était pas abonné à Canal+.
Érotique, pas film porno, Cat Size. Non, mais
c'est quand même très chaud.
La question du générique est mieux animée que le dessin animé lui-même. Je pense toujours aux Tortues Ninja. Parce que les Tortues Ninja, le générique était un vrai petit morceau d'animation à la japonaise. Et une fois qu'on est arrivé au dessin animé stricto sensu, on ne pouvait manquer que d'être déçu. Par contre, on disait quelque chose d'assez juste avant d'enregistrer. À propos de Cosmo Cats, on disait notamment que c'est un dessin animé qui en France n'a pas vraiment marqué les esprits comparé à d'autres séries comme Les Cités d'Or par exemple, ou Jess et les Conquérants de la Lumière qui passaient à la même époque, et que la série avait davantage marché dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis ou au Royaume-Uni par exemple.
Alors du coup,
les gens qui ont plus de goût, donc du coup ça me fait une transition toute trouvée avec le ZX Spectrum, qui est une machine prisée de nos amis outre-Manche, à ce que je crois.
Ça y est, on sort les dossiers.
Alors, le Spectrum, pour ou contre ? Commençons la polémique.
Ben, écoute, moi j'ai eu un Commodore 64, donc je pense que tu feras le lien.
Sur quelle est la version sur laquelle tu as commencé à jouer à Thundercats, Seb?
Alors à l'époque, c'était la version Amstrad CPC, qui est la moins bonne d'ailleurs, mais ça je ne le savais pas à l'époque. Mais pour revenir à ce qu'on disait juste avant, on peut vraiment faire le parallèle entre Thundercats et le ZX Spectrum, parce que c'est justement en Angleterre que la série a le mieux marché. Au Royaume-Uni, Thundercats, c'était le dessin animé le plus culte juste avant la venue des Tortues Ninja, quoi. C'était l'équivalent en Angleterre des Tortues Ninja chez nous.
D'accord. Donc avec tout ce que ça implique de merchandising, de jouets, d'univers étendu, on peut dire,
oui,
auprès des jeunes
qui
enfants.
Qui dit Angleterre dans les années 80, dit marché des micro-ordinateurs florissants, Spectrum et Amstrad et autres, et ce qui explique pourquoi ce jeu est sorti et pourquoi il a marqué pas mal de monde en Angleterre et beaucoup moins de monde ailleurs en fait.
D'accord, donc en France, donc toi quand tu l'as connu, c'était par intermédiaire de la version CPC, tu disais, mais tu fais un peu le tour de toutes les adaptations qu'il y a eu le long de ton article, donc sur Amiga, sur Atari ST, sur C64 et sur Spectrum. Alors ton article répond plus ou moins à cette question, mais de toutes les versions, quelle serait celle que tu conseillerais afin de profiter de Thundercats, celle que je trouve la plus aboutie, que ce soit au niveau du gameplay ou de la technique.
Déjà, j'imagine que la version CPC, ça veut dire c'est pas ça, c'est ça?
Ouais, c'est pas ça, clairement.
Ouais, ça veut dire 100%, revois tes classiques.
Ouais, elle est pas nulle, hein, mais mise juste à côté de la version Spectrum, qui justement, à mes yeux, est la meilleure, si on tient compte des capacités de la machine. Ouais, elle fait pas le figure. Et donc la version Spectrum de Thundercats est la plus agréable à jouer encore aujourd'hui, même face aux versions Amiga ST qui sont graphiquement assez jolies.
Rassure-moi, tu aimes tout aussi avec des orties fraîches, parce que trouver ça bon sur Spectrum par rapport à une version Amiga ou ST, c'est même plus de la mauvaise foi à ce niveau-là. Vas-y, fais ton truc là, parce que s'il te plaît, là je vais être obligé de me servir à boire, ça va pas être bon quoi.
Je te répondrai en disant que le Spectrum est à l'Atari ST ce que la Game Boy est à la Game Gear. Évidemment, j'avais un Amiga. Non mais sérieusement, si on se plonge dans la ludothèque du Spectrum, on peut faire des analogies avec la ludothèque de la Game Boy. pas seulement pour le manque de couleur dans les deux cas, mais on verra que sur Spectrum, oui, par exemple, mais sur Spectrum, il y a quand même des tas de petits jeux, entre guillemets, dans lesquels le gameplay n'est pas forcément super fouillé du fait des capacités de l'engin, mais qui se jouent très bien, quoi. Il y a de nombreux classiques 8-bit qui sont plus jouables, plus agréables à manier dans leur version Spectrum que dans leur version CPC qu'on a mieux connue ici en France, quoi.
Tu penses à quoi en particulier quand tu dis ça?
Ben, à Thundercats.
Mandragore. Merde.
Oui, non. Oh, oh, c'était l'instant Mandragore. C'est notre nouvelle rubrique, un fun fact sur Mandragore.
Ça compute pas.
C'est une vaste question, mais peut-être que sur Gros Pixel, bientôt, il y aura un gros blog Spectrum et on pourra se livrer à ce genre de comparaison. Et y a...
Excuse-moi, d'abord, tu finis ton gros blog sur la Super NES et puis après, on verra pour le Spectrum. Non, mais s'il te plaît.
Je finirai mon gros blog. Tout le monde ne pourra pas en dire autant.
Mais c'est vrai que le Spectrum est pour moi une machine qui reste très mystérieuse, que j'en connais vraiment vraiment peu de choses vis-à-vis du CPC par exemple ou du C64 dans lequel j'ai pu plonger davantage. Le Spectrum, c'est vraiment une machine qui est restée. Bon, après il y a tout l'aspect perfide Albion qui m'empêche qui m'empêche d'y aller plus en amont. Mais tu semblais dire oui qu'elle avait certains atouts pour un side-scroller, cette version Spectrum qui se démarquait de la concurrence. Donc, tu parlais du scrolling, de l'intensité de l'action, sont des choses, je pense, qui sont très appréciables dans ce genre de jeu.
Ouais, je pense qu'on pouvait pas trop faire des choses très poussées techniquement avec le Spectrum, donc les programmeurs se concentraient sur l'essentiel. Avoir des jeux jouables qui répondent bien, avec des personnages qui répondent bien quand on bouge le joystick, avec des collisions pas trop pourraves, et alors que souvent les productions sur d'autres ordinateurs plus perfectionnés, ces considérations passaient au second plan par rapport à l'aspect graphique et sonore.
Donc Thundercats, side-scroller. Alors un point que je n'ai pas très bien compris dans l'article, peut-être que tu vas pouvoir m'éclairer, Seb, c'est au niveau des armes à la disposition du personnage jouable, donc Lion O ou Star Lion en français, puisque à certains moments il dispose d'une épée, d'autres d'un fusil laser. Est-ce que ce sont des items qu'on ramasse au cours d'une partie, ou bien est-ce que c'est spécifique à un niveau en particulier du jeu qu'on se voit attribuer une arme spécifique?
Non, en fait on commence tous les niveaux avec une épée, la fameuse épée qu'on voit dans le dessin animé, et en ramassant certains bonus on obtient une espèce de fusil laser à la place, qui est bien plus pratique pour progresser dans les niveaux, mais qui n'a rien à faire là, parce qu'il n'y a pas de fusil dans le dessin animé, en fait.
Et c'est un power-up qui dure jusqu'à la fin du niveau ou la mort du personnage, ou bien c'est temporaire
Écoute, on meurt tellement souvent là-dedans que...
T'as jamais fait de test pour...
Si on ne meurt pas, je me demande, je ne sais pas.
Parce que tu disais, oui, que le rythme du jeu avait l'air d'être assez soutenu, surtout quand on arrive au dernier ou à l'avant-dernier niveau, où il y a tous les clones, tu disais, de Mumra, donc le gros méchant du jeu, qui font leur apparition et qui sont apparemment très durs à vaincre. Est-ce que tu as réussi à finir le jeu, enfin finir un premier run, du moins?
Avec les cheats, ouais.
Non,
avec les save states, peut-être.
Disons que là, j'ai 37 ans, j'ai fait un calcul à peu près des années qui me restaient à vivre en prenant en compte mon alimentation et le climat, et j'en suis arrivé à la conclusion qu'avec le temps qui me restait, non, j'arriverai jamais à devenir assez bon pour finir le jeu, quoi.
Oui, mais en même temps, vu l'endroit où tu vis, dans 2 ans, t'es mort, hein.
C'est pas faux, je vois la centrale de Katnum par ma fenêtre.
Alors, on va parler un peu plus du Spectrum
général.
on va parler un peu du Spectrum, donc cette machine méconnue, mal aimée même. Est-ce qu'il y a une communauté Spectrum francophone vivace aujourd'hui sur Internet?
Non, elles ont été traquées et comme les Juifs ont traqué les nazis. Ah merde, Prévost de Godwin, je m'arrête.
Enfin, vous vous cachez, espèce de Juif spectro. Donc, si vous deviez me conseiller quelques jeux sur Spectrum, au-delà de Thundercats, des jeux qui seraient intéressants, exclusifs même.
Alors, un seul jeu Spectrum à conseiller, c'est 3D Dev Chess, sur lequel j'avais fait un article également. C'est un jeu, c'est de l'action pure et dure, tu joues à ça comme tu joues à Defender en arcade, c'est indémodable, ça joue super bien, ça n'a pas besoin de super graphisme, pour moi c'est le jeu Spectrum à essayer encore aujourd'hui.
Et c'est vrai qu'en voyant les vidéos, donc notamment de Death Chase, il y a une vitesse d'affichage qui est assez intéressante hein, pour le principe du genre, le défilement, les obstacles qui apparaissent. C'est pour un jeu de 1983, donc Death Chase, c'est quand même assez impressionnant pour l'époque. Donc mine 2, la machine avait des capacités techniques assez marquantes pour son époque malgré tout.
Ouais, je pense que c'est plus le talent du programmeur que le hardware qu'il avait à sa disposition qui a fait la différence à mon avis.
Bah, c'est encore une fois, si tu regardes sur pas mal de machines de ces générations-là, il y avait des mecs qui sont allés dans les entrailles de la machine et qui ont sorti des trucs qu'on aurait cru jamais possible. Et autant sur tu regardes, il y a des mecs qui ont été capables de sortir des démos de fous furieux sur Amiga et Dieu sait que ça me coûte et sur ST et ça me fait plaisir. Mais voilà quoi, c'est tu regardes les mecs, ils ont réussi à contourner et je sais plus quelle phrase de la semaine il y avait eu une sortie là-dessus. Comme quoi les mecs aujourd'hui, c'était les premiers à se plaindre que la Saturn c'était compliqué à programmer, que la PS3 ou la PS2 c'était la gabegie, mais après ils n'avaient pas programmé sur les machines d'avant. Et quand tu vois ce qui a été sorti sur certaines machines à l'époque, et ben voilà, respect quoi. C'est au bout d'un moment, il faut se sortir les doigts du cul, tu te laves les mains pour passer à la fonte clavier et puis voilà quoi. Seb, tu parlais de la version CPC tout à l'heure, tu parles de la version Spectrum. Imagine que moi, je suis totalement à part de ce truc-là. Vends-moi un peu le bousin de façon à ce que j'ai envie d'installer un émulateur CPC. Non, c'est pas possible, mais installer un émulateur Spectrum pour voir ce que ça donne et ce qui me donne envie de le faire. Voilà, c'est savoir ce qui est intéressant dans le truc et pourquoi il faudrait avoir envie de découvrir le reste du spectrum en passant par ce prisme-là.
Alors, forcément, maintenant, là, le Thundercat, c'est peut-être pas forcément le jeu le plus intéressant qu'il existe sur Spectrum. Par contre, à l'époque, c'était vraiment un hit, parce qu'encore une fois, on est à la fin des années 80, un des genres dominants, c'est le side-scroller d'arcade, hein, à la Contra ou à la Ghost and Goblins. C'est vraiment le genre de jeu d'action qu'on préfère sur nos micros. Et Thundercats en est vraiment un très bon représentant. Pas forcément grâce à sa licence, même si ça a joué pour le public anglo-saxon, mais parce que c'est un jeu qui, en tout cas dans sa version Spectrum, qui est bien programmé. On a un perso qui répond au doigt et à l'œil, qui est très très agile, ce qui n'était pas forcément la norme dans les jeux d'action occidentaux, quoi, dans les jeux d'action micro, où on avait souvent des héros qui avaient des sauts assez raides. Et là, on a un perso super agile, qui tape très très vite, qui court très vite, avec des ennemis qui arrivent de tous les côtés. Et dans son genre, c'est un des titres les plus furieux qu'il y a eu sur les micro 8 bits.
Donc si je résume, tu as du rythme, c'est quelque chose qui, contrairement à l'époque, est pas rigide et te permet d'avoir un gameplay qui est un peu sympa. C'est pas forcément le meilleur jeu pour appréhender le Spectrum, mais ça permet de rentrer un peu dans Logitech et puis de regarder ce qui se passe derrière.
C'est ça, il est typique de son époque, il est dans le haut du panier des jeux d'action. Si pour ceux qui aiment des jeux comme 30 heures, comme Brave Star aussi, qui est aussi tiré d'un dessin animé et qui était très bon en version CPC, bon ben ThunderCats c'est un peu dans ces eaux-là. C'est vraiment un bon jeu d'action, très 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 difficile, mais la jouabilité est vraiment bien calibrée, il n'y a pas de bug. On perd parce qu'il est dur, quoi. On perd pas parce qu'il est buggé.
Tu parlais de jouabilité sympa, de trucs bien programmés. Et donc, moi, ça me fait rebondir là-dessus. Mais sur le truc du Spectrum, ça voudrait dire que le reste de la prod, elle n'est pas programmée comme il faut et que ça a été fait par-dessus la jambe et que c'était l'époque des cassettes sorties à pas cher et voilà, mais ou pas.
Non, c'est oui. Enfin. Les cassettes sorties à pas cher, oui bien sûr, mais c'est surtout l'époque où il y avait deux types, enfin souvent un seul qui faisait un jeu, il n'y avait pas d'équipe de test, donc souvent les jeux plaisaient à leur auteur, plaisaient à l'éditeur, ça allait pas plus loin au niveau testing avant de sortir dans le commerce, donc on se retrouvait souvent avec des jeux qui faisaient amateur, c'est leur charme aussi. Et qui avait des déficiences de gameplay. ThunderCats, c'est un jeu qui souffre pas trop de ses défauts d'amateurisme.
Donc, ça voudrait dire que sur le reste, il n'y a pas grand-chose à sauver ou il y a encore quelques perles que tu as prévu de nous faire découvrir dans les prochains temps ? On fait un petit zoom.
Oui, il y a beaucoup d'autres perles. Bon, il y en a qu'on connaît bien. Disons que les jeux d'action sur les micro 8 bits de l'époque, ça se divise en deux catégories. T'as les adaptations d'arcade d'un côté et les productions originales. Et les adaptations d'arcade, là encore, tu peux diviser ça en deux. T'avais les mecs qui avaient la licence, qui étaient sûrs de vendre, et à partir de là, ils faisaient des conversions qui étaient pas terribles.
Oui, d'où la phrase « jeu à licence, daube en puissance ».
C'est ce qu'on appelle le syndrome US Gold.
On disait ça aussi à l'époque, mais bon, à côté de ça, t'as Green Beret sur Commodore 64, t'as Flying Shark sur Spectrum, qui sont des adaptations qui sont très très bonnes. Donc là, on a des jeux où t'as une base, qui est le jeu d'arcade, qui est donc déjà à la base un jeu qui bénéficie d'une bonne finition, qui est bien équilibré, donc s'il est bien adapté, ça nous fait un bon jeu. De l'autre côté, t'as les productions originales, qui sont faites, donc comme je disais, par des concepteurs de jeux qui sont à la base des techniciens, des programmeurs, qui n'ont pas forcément à l'époque une très très grande culture vidéoludique, et qui donc ont souvent des problèmes pour trouver le bon gameplay, le bon rythme dans leur jeu d'action. Ce qui fait que dans cette famille de jeux originaux, t'as des jeux qui brillent parce qu'ils sont originaux dans leur contexte, dans les univers qu'ils mettent en scène, mais qui pêchent par leur gameplay. Et à côté de ça, t'as des mecs qui arrivent à trouver la bonne formule, la bonne jouabilité, le perso qui répond bien au joystick, le bon level design, et c'est quand même assez rare dans les productions occidentales sur micro, quoi. Ça ne veut pas dire que les autres sont mauvais.
Ouais, ce qui veut dire qu'en fin de compte, ce n'est pas qu'un problème de programmation, c'est un problème de vision globale, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais. Je veux dire, si on compare les productions nippones sur les consoles 8 bits et occidentales, enfin européennes, on va dire, sur les micros 8 bits, il y a du côté des Japonais, on voit qu'ils ont une vraie culture jeu vidéo, alors qu'en Europe, on a d'abord des techniciens quoi, qui font des jeux.
Des jeux qui vont être aboutis d'un point de vue de la technique, mais qui vont prêcher par leur qualité ludique, tu veux dire.
Ouais, pas forcément. On ne peut pas simplifier comme ça, mais on va dire que c'est plus au niveau des réglages du gameplay que dans les jeux d'action, en tout cas, que les productions européennes vont souvent souffrir de défauts. C'est quand même pas pour rien que, sans exagérer, 80% des jeux d'action sur micro 8 et 16 bits, jeux européens sur micro 8 et 16 bits, sont impossibles ou quasi impossibles à finir sans vie infinie. Tu trouves pas le même problème dans les jeux NES ou même les jeux MSX.
Quand même un peu. Hein.
Oui,
Oui, Rigard.
Bah quoi, Rigard,
Rigard, version européenne, tu peux pas le finir sans un cheat code.
Qu'est-ce que tu appelles Rigard version européenne? Tu parles d'une conversion qui est buggée?
Non, Rigard version NES, tu ne peux pas finir le dernier boss parce que tu n'as pas assez de points de vie pour pouvoir le descendre, parce que tu es obligé de te faire toucher à certains moments. Et comme la version japonaise était trop facile, les mecs ont rajouté des points de vie au boss final. Et tu ne peux pas battre le boss final sans cheat code, parce que tu n'as pas assez de points de vie pour pouvoir le descendre.
Ok. Tu admettras quand même que c'est un peu un cas particulier, parce qu'on a à la base un jeu qui est finissable, qui est bien pensé. Et donc, si j'ai bien compris ce que t'expliques, c'est au moment de la conversion occidentale que y a quelque chose qui a merdé.
Non, mais sur NES, de toute façon, en règle générale, il te manque toujours un troisième ou un quatrième bras pour finir les jeux. Hein. Si je commence à compter les jeux sur NES, c'est infinissable.
Oh non,
excuse-moi.
Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ils ont une certaine exigence de, on va dire, au niveau de la manette. Mais
et surtout avec les angles, tu sais, qui sont mal au coin des mains.
C'est ça.
Voilà. Au bout d'un moment, on a mal au coin. À part si t'achètes un S Max ou un S Advantage, mais ils sont malgré tout. Du moins les têtes d'affiche sont finissables. Même un contrat, par exemple, sans Konami Code, demande un peu de d'entraînement, mais parfaitement finissable malgré tout.
J'ai Tortue Ninja.
Tu peux le
et je ne voulais pas de drogue à l'époque, ni d'alcool.
Comme dirait l'assistant Skinner.
Toujours pas de drogue.
Non, mais attendez, là on parle de jeux qui sont quand même finissables, qui sont vraiment conçus pour, une fois qu'on a développé l'adresse nécessaire, être terminé. Peut-être pas par le commun des mortels.
Attends, le commun des mortels de l'époque, oui.
Non. Oui, de l'époque. Mais maintenant, compare ça avec quel est le jeu micro qui fut le plus populaire, surtout en Angleterre, un jeu Spectrum, CPC, etc. C'est quoi?
C'est
Jet Set Willy.
Commencez pas vos phrases par Jet Set.
Bien avant Tetris. Ouais, c'est dangereux. Et j'ai pas dit Jet 27.
Jet Set, Jet Set.
Et donc c'est.
Voilà, ça me reprend.
Non, mais c'est un des jeux qui s'est le plus vendu et donc sur les micros 8 bits, et c'est un jeu qui est vraiment infinissable. C'est-à-dire qu'il y a un bug qui empêche qu'il soit terminé en plus de sa difficulté qui est énorme.
Oui, mais attends, pour Jet Set Willy, il y a deux raisons. Premièrement, c'est que le bug, il y a très peu de personnes qui l'ont rencontré parce qu'il fallait l'atteindre, et voilà,
oui, personne n'était au courant.
Et deuxièmement, Jet Set Willy, il est marrant. Alors que le modèle des tortues Jeannine, avec l'électricité sous la flotte, au bout de 20 fois, c'est plus drôle. Non, mais imaginez bien les jeux NES, si la NES avait connu les leaderboards et les publications des scores sur Internet, vous seriez moins de 50 à afficher votre score. Hein.
Bon, les enfants, nous avons fait à peu près une demi-heure sur ThunderCats, ce qui est un exploit en soi. Avant d'aborder la deuxième partie, donc consacrée au reboot des vieilles séries sur les plateformes récentes, nous allons faire un petit break musical, comme de coutume, mais cette fois-ci, Seb, tu me donnes la transition toute trouvée au sein même de ton article, en évoquant la magnifique musique d'intro donc de la version Spectrum, composée par le non moins grand Rob Bard, morceau que je vous propose d'écouter à l'instant, et on se retrouve de suite après. À tout de suite. We'll be right back.
En raison de différentes contraintes techniques rencontrées par l'équipe de Gros Pixel, il nous est impossible de vous proposer le débat portant sur la question du reboot, du remake et du revival comme initialement prévu. En lieu et place, vous aurez droit à deux rapides entretiens avec les membres de l'équipe Chapopeye et Karl qui vont répondre au micro d'un MDF sur ces questions. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce dérangement momentané de l'antenne et nous vous souhaitons une bonne continuation.
Alors, nous allons commencer par une petite interview, un petit entretien avec Chapopeye. Donc, Chapopeye, est-ce que tu pourrais nous parler d'un jeu reboot, remake, revival que tu as fait récemment et dont tu voudrais aujourd'hui nous parler?
Bon, on va causer, on va faire dans le facile, dans Tales of Monkey Island.
Hein. Donc tu parles de Tales of Monkey, donc c'est-à-dire le Monkey 5 en fait.
Oui, on peut dire ça comme ça. Le 5 est lui-même en 5 épisodes qui sont sortis sur Steam entre autres et sur WiiWare. Et je crois qu'ils sont pas sortis sur les. J'ai vérifié justement sur le XBLA. Je crois qu'il est pas sorti.
Non. Non, effectivement. C'est d'ailleurs assez surprenant de l'avoir eu sur le WiiWare et pas sur les autres plateformes de téléchargement. Effectivement.
Surtout que sur le WiiWare, il était pas. Enfin, techniquement, il était. Il me semble qu'il était.
Génial. J'avais acheté les trois premiers épisodes et effectivement, en fait, il souffre du syndrome Sam & Max, quoi. Ouais. C'est-à-dire que la chose est mal optimisée, ce qui est vraiment dommage puisque la Wii est capable en matière de point and click de faire des choses assez intéressantes, notamment Runaway, qui était très bien porté par rapport à la version PC.
Alors il était sorti, moi j'avais joué sur PC uniquement. Et alors effectivement, c'était le jeu avait dû être annoncé pas tellement de temps avant sa sortie, enfin en tout cas moi j'en avais pas entendu parler quelques mois ou voire quelques semaines avant sa sortie. Alors étant donné que j'ai toujours été un grand fan de Monkey Island, de tous ces épisodes hormis du 4e qui m'avait profondément déçu. Mais même le 3 qui est décrié par certains, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Bref, j'étais très content de retrouver l'univers Monkey Island. Et le premier épisode, bon, je l'ai trouvé très sympathique dans son histoire, dans son scénario, avec on retrouvait un certain humour, certaines vannes. Il y en a une en particulier qui m'avait vraiment fait rire, c'est quand Guybrush rencontre je crois que c'est le collectionneur de figurines qui s'appelle Doro, qui est également un explorateur, je crois. Et Guybrush qui lui sort, est-ce que je peux vous appeler Doro l'explorateur, enfin le genre de gag. Et là, à ce moment-là, c'est lui-même qui se met une baffe parce que il a une main, c'est une sombre histoire de main vaudouillée, voilà. C'est la main de l'autre Chuck, je me souviens plus trop parce que je l'ai fait qu'une fois.
Oui, c'est la main de l'autre Chuck ou c'est la main du mal, quelque chose.
C'est ça qui
agit contre sa volonté. Oui, tout à fait.
Et donc il se prend une baffe au moment où il sort cette vanne toute pourrie, ça j'avais trouvé ça vraiment bon. Ce que je n'avais absolument pas aimé, c'était la maniabilité, le déplacement du personnage qui il fallait laisser appuyer, cliquer sur la souris, sur le bouton gauche de la souris et déplacer la souris dans une direction pour que Guybrush aille dans cette direction au lieu de faire un truc tout con, point and click comme on faisait avant, c'est-à-dire cliquer à un endroit et pof, Guybrush s'y rend. Là, je sais pas pourquoi il se sentait obligé de d'avoir ce système-là qui était assez pénible. Donc là déjà ça refroidit un petit peu. Bon, j'avais fini le premier épisode, je passe au deuxième qui commence à introduire des éléments un peu surnaturels, on rencontre des sirènes, bon, pourquoi pas. Et puis au troisième, on se retrouve dans le ventre d'un lamantin. Alors, tout ça, c'est rigolo à jouer, c'est assez marrant, ça donne lieu à des situations, à des énigmes assez sympathiques. Mais on s'éloigne quand même, je trouve, on s'éloignait quand même de plus en plus de l'univers de Monkey Island.
Ouais, le problème de l'univers de Monkey Island, j'y avais réfléchi il y a quelques temps déjà, c'est que pour moi la rupture s'est faite avec le troisième épisode, avec mm-hmm. Curse of Monkey Island, que tu disais certains décrits, décrits cet épisode. Bon, moi c'est le premier Monkey Island que j'ai fait. Mmh. Avant de connaître les plus anciens avec le système Scum. Mmh. Et donc il garde une place toute particulière dans mon cœur malgré tout, et je trouve que c'est un jeu d'aventure qui est assez efficace, qui est très beau. J'aime beaucoup l'esthétisme de cet épisode là mais c'est vrai qu'en matière d'univers, on est passé avec les deux premiers univers à en fait un univers très sarcastique mais cohérent en lui-même, du monde de la piraterie des Caraïbes du XVIIe siècle, je crois que c'est du XVIIe siècle, XVIIe ou XVIIIe, c'est-à-dire où les éléments qui peuvent être anachroniques ne dérangent pas les personnages et sont parfaitement intégrés dans l'univers. C'est-à-dire que dans le premier Monkey Island, quand il y a une machine, un distributeur automatique de grog qui imite les couleurs et la forme de Coca-Cola, personne ne s'en étonne. C'est ah oui, chic, ils ont mis une machine à grog Coca-Cola. Et progressivement, à partir de l'épisode 3, on est allé de plus en plus vers une esthétique, vers une optique que j'avais qualifiée à l'époque de pierre à feu de la piraterie. Ouais. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un univers où il s'agit non plus de transposer certains éléments du monde moderne dans le monde des pirates des Caraïbes, pour parler simplement, et essayer de voir un peu comment la chose pourrait s'insérer avec toute cette mythologie-là. Non, on a voulu transposer tout le monde moderne dans le monde de la piraterie. C'est-à-dire que dans l'épisode 3 encore, ça reste assez discret.
Non, c'est assez discret. Hein.
Mais dans l'épisode 4, c'est vraiment, ça en devient ridicule avec le restaurant de sushi, avec la chaîne de restaurants ou de café Starbucks, l'école de piraterie, etc., etc. On est passé. Et j'ai été déçu de voir que Monkey 5 aille finalement dans cette même direction là. Pour moi, c'est vraiment quelque chose. Ils ont loupé quelque chose en chemin, il me semble. Donc, tu as fait les 5 épisodes du coup, tu les as finis?
Je n'ai pas fini le dernier en fait. Alors ça c'est aussi à cause du, je crois que c'est le fait que ça sorte en épisode. C'est un peu piégeux parce que il faut vraiment que le jeu soit très bon pour que on ait envie tous les mois, voire tous les deux mois pour certains jeux, de prendre l'épisode suivant, de se replonger dans l'univers qu'on a délaissé, parce que généralement l'épisode sort, on le télécharge, on y joue, comme ils sont pas très longs, en 3-4 jours, 5, une semaine, si on joue qu'à ça, c'est bon, il est plié. Donc se replonger dedans un mois et demi après, dans le meilleur des cas, si on a que moyennement accroché, c'est difficile. Pour moi, à chaque fois, il me fallait me dire, alors, dans l'épisode précédent, c'était comme ça. Donc, il y a des éléments que j'avais oubliés, que j'avais laissé tomber. S'il était sorti, j'avais fait tout d'une filée, d'affilée, merci. Si j'avais tout fait d'affilée, peut-être que je serais allé jusqu'au bout. Mais là, arrivé au cinquième, je me suis dit, bon, alors, où est-ce qu'on en était? Qu'est-ce qui s'est passé? Et,
C'est un peu comme les séries télévisées finalement, on arrive à la fin de la saison et qu'on doit attendre un an, 9 mois pour retrouver. Si jamais la série ne nous a pas emballé ou nous a laissé sur une impression
mitigée, c'est difficile de se replonger.
Voilà, c'est difficile de se replonger, de retrouver les personnages. Moi, ça me l'avait fait notamment. Du coup, voilà, ça on reste un peu en même domaine avec, par exemple, The Walking Dead, où j'avais été assez content de la première saison, de la série télévisée. Je la trouvais. Je connais pas du tout le comic, hein, je le précise, donc je peux pas faire de comparaison. Certains disent que ça n'a rien à voir, etc. Donc,
non, mais j'étais comme toi, j'avais commencé par la série.
Voilà. Là, et je trouvais la première saison assez sympathique, assez efficace, et la deuxième saison est tellement lente, est tellement est tellement inutile, avec des discussions qui ne mènent nulle part, des personnages qui ne fonctionnent pas bien ensemble, que du coup, même si le dernier épisode de la dernière saison montre qu'ils ont compris certaines de leurs erreurs et ils commencent à rectifier la barre, je n'ai pas envie de voir la troisième saison. J'ai pas envie. Alors que Game of Thrones, par exemple, après avoir terminé la deuxième saison, j'ai envie de retrouver cet univers et ses personnages, puisque mon intérêt est toujours vif pour ça. Donc voilà. Et donc Walking Dead, du coup, ça me fait un parallèle avec, pour en parler un peu, même si c'est pas trop le sujet de la discussion, avec The Walking Dead, donc le jeu.
Le jeu. Alors lui, c'est encore pire hein, sur le plan de la sortie des épisodes, parce que à la base, ça devait être un tous les mois. Le premier est sorti au mois d'avril, le deuxième début juillet, le troisième fin août, et je crois que le dernier est sorti à l'heure où vous écoutez ce podcast, et donc je l'aurai, et à l'heure où vous écouterez ce podcast, chers auditeurs, je l'aurai terminé, c'est le quatrième épisode, parce que là, pour le coup, on a un jeu en épisode, et qui tient vraiment en haleine, et enfin bon, qui est fabuleux, mais bon, ce n'est pas le sujet de ce soir. Et je reviens à Tales of Monkey Island. Donc voilà, j'ai pas terminé le cinquième. Et ce qui est quand même fou, c'est que ça me fait un peu du chaud ni froid de pas l'avoir terminé, quoi. Alors, quand même, j'ai fait les quatre, j'étais au cinquième, qui est pas non plus inintéressant. Voilà, l'intérêt s'est perdu en cours, le charme n'opère plus comme auparavant. J'étais très content qu'il ressorte, qu'il déterre Guybrush.
Oui.
Surtout après le quatrième épisode, là, qui, pour le coup, m'avait vraiment déçu. Mais c'est pas l'épisode, sans que Warren Gilbert forcément soit aux commandes, on pourrait avoir quelque chose de mieux, qui retourne plus aux sources que cette optique dans laquelle ils sont partis, là où c'est celle que tu décris effectivement, avec encore plus d'anachronisme et encore plus d'éléments fantastiques, quoi, qui, bon, ça tourne au n'importe quoi par moment.
Et est-ce que tu as essayé alors les remakes qui ont été faits des deux premiers Monkey Island, donc
ah oui, ceux-là, oui, je les ai pris effectivement dès leur sortie sur PC. Alors là, c'est un peu particulier parce que d'une part, on peut switcher entre les deux versions à chaque fois,
qui est d'ailleurs une qualité. Enfin, je trouve que c'est une très bonne idée de la part des développeurs d'avoir fait ça, en fait, d'avoir permis aux joueurs de revenir à la version originale à tout moment d'une pression de bouton, même si je ne sais pas foncièrement qui sont les utilisateurs en fait de cette
je pense pas
que ce soit les nouveaux joueurs, ceux qui ne connaissent pas Monkey Island, qui le font. Je pense que
ou
c'est
alors
plus
si ils le font les... ils le font pour
tester, pour voir,
voilà,
à quoi
pour,
ça
par
ressemblait,
curiosité, oui. Parce que même moi qui les ai fait à leur sortie, les deux premiers, c'est bon, je les ai j'y ai rejoué plusieurs fois depuis 90 sur différents supports, mais là quand il est sorti en version HD, j'y ai rejoué en version HD. Alors de temps en temps, effectivement, je passais à la version originale d'une part pour pouvoir effectivement comparer les graphismes, le travail qui avait été effectué, également parce que dans la version HD, tout est traduit en français, mais quand on passe à la version originale, là on a les dialogues en anglais. Donc ce qui est quand même très intéressant, notamment, enfin pour quelqu'un qui s'intéresse aux langues et à l'anglais principalement, notamment quand on est dans le combat d'insultes, dans le milieu d'insultes, là on peut voir, voilà, c'est comme ça qu'il a été traduit, mais comment c'était en réalité, et on voit toutes les différences sur le plan linguistique, c'est assez passionnant. Alors, ce qui a été bien aussi sur cette version, c'est que sur ces deux versions, c'est l'ajout des voix, par exemple.
Oui.
Ça ne gâche rien parce que les voix sont, les doublages sont vraiment excellents. C'est, alors je crois sans trop m'avancer que c'est le doubleur de Guybrush, c'est celui qui, c'est le même que dans Curse of Monkey Island. Je
crois. Voilà, hein, tout à fait. Qui est, donc, qui était, en français d'ailleurs pour.
C'est celui d'Aladin.
Voilà, c'est le. Voilà. D'ailleurs, c'était annoncé en sticker sur la boîte de jeu.
Oui.
Lors de la sortie, si tu seras le bien avec
ah ouais,
le doubleur d'Aladin.
Donc ça, voilà, c'est des ajouts qui ne gâchent rien. Bon, après le lifting en lui-même, on peut ou pas être comment dire, on peut ou ne pas aimer. Hein, c'est vrai que c'est ça change. Clairement, ça change. Il y a un côté lisse, bon, qui peut ne pas plaire. Mais voilà, on peut y jouer de toute façon en version originale, donc bon, ça c'est vraiment un portage, je sais pas si on peut dire que c'est un remake parce que c'est exactement scène pour scène les mêmes choses.
Mm-hmm.
Enfin, c'est quelque chose qui a été vraiment vraiment réussi comme remake ou portage ou peu importe comment on l'appelle, quoi.
Très bien. Alors, est-ce que tu as un autre exemple qui te vient en tête comme ça de reboot, de remake. Alors, de retour sur le devant de la scène, d'une ancienne licence.
Bah, disons qu'il y a ceux, pour moi, hein, après, chacun évidemment a ses propres goûts, je dirais qu'il y a les jeux qui, les remakes qui en soi sont de très bons jeux, hein, mais qui pour moi, c'est pas ce que j'attends de la résurrection d'une licence.
Mmh.
Je vais te prendre l'exemple de Kid Icarus.
Oui.
Donc moi j'ai toujours été un grand fan de ce jeu sorti sur NES.
Mmh.
Et donc Pete a été ressuscité, bon, si on accepte les son apparition dans Super Smash Bros Brawl, il est réapparu sur 3DS il y a un peu plus d'un an.
Mmh.
Alors le jeu en lui-même est très bon. Bon, alors j'avoue que je n'y ai pas joué en entier, j'ai juste testouillé comme ça sur une borne. Bon, mais clairement c'est un jeu de qui a l'air de grande qualité, mais qui n'a pas grand-chose à voir à mon sens avec le Kid Icarus original. C'est-à-dire qu'on est dans un rail shooter avec quelques phases à pied, mais on pourrait mettre n'importe qui à la place de Pete.
Mmh.
Voilà, il l'appelait différemment, et ça passerait tout autant. C'est pas spécialement, même si c'est un peu mythologique, c'est pas l'essence de Kid Icarus, qui était un jeu de plateforme et d'exploration dans des donjons, quoi. Là, c'est du rail shooter. Alors, il est très bien fait, hein, y a pas à dire, mais, on aurait pu mettre un autre personnage, ça n'aurait rien changé.
Oui, donc en fait, tu reproches finalement à Nintendo d'avoir utilisé l'univers au sens large de Kid Icarus, mm-hmm, pour expérimenter un autre type de gameplay qu'on aurait pu imaginer, la licence Star Fox.
Oui, voilà, exactement, c'est exemple, ça que je pensais j'allais dire. Exactement. Voilà, ouais. On aurait pu mettre Fox et puis ça aurait fait la même chose. Hein. De la même manière que quand Star Fox Adventure était sorti sur GameCube, quoi, qui était ce jeu très bon, mais enfin par rapport à Starwing,
mais Star Fox Adventure, c'est aussi quelque chose de très particulier, puisqu'à la base, donc projet de Rare qui devait s'appeler Dinosaur Planet, qui devait sortir sur N64, qui a été porté sur GameCube, il y a eu l'inclusion des personnages de la saga Star Fox, avec des petites phases en Airwing qui ne sont pas des plus réussies, et une intégration assez bâtarde de Andros en tant que boss final qui apparaît en Deus Ex Machina dans les 5 dernières minutes sans que rien de justifier par ailleurs sa présence. Donc là la ficelle était un peu grosse. Mais à côté de ça, le jeu, tout comme tu disais, restait très sympathique et très agréable, surtout pour les débuts de la GameCube. Enfin, j'en garde d'assez bons souvenirs. Notamment, il y a une phase de jeu qui est assez courte, mais que j'avais trouvé très sympathique, qui était l'épreuve de la peur. Je sais pas si tu te rappelles.
Je me souviens plus.
Au fur et à mesure du jeu, en fait, on doit à certains moments entrer dans des temples pour récupérer des orbes ou des choses sacrées, des choses comme ça. Et chaque temple est tourné autour d'une thématique particulière.
Mm-hmm.
Donc il y a le temple du combat où tu fais surtout des combats. Il y a le temple de l'agilité où tu fais de la plateforme, etc. Et il y a un temple qui est dédié à la peur. Ouais. Et donc en fait, le temple de la peur, c'est une cinématique en fait où tu vois Fox qui est vraiment apeuré par des voix, des formes, des fantômes qui surgissent dans l'écran. Et en bas de l'écran, en fait, il y a une jauge. Et avec le stick, tu dois tout le temps garder un curseur au milieu de la jauge. Sauf que à chaque fois que Fox bondit de peur, le curseur a tendance à s'emballer et à sortir de la barre. Et donc toi, tu dois vite le ramener dans la position initiale. Et donc, c'est tout bête hein, comme système, mais la présentation a été très bien faite. Et j'en garde encore un très très bon souvenir. Ça, c'est peut-être la phase du jeu qui m'a le plus plu, je dirais.
Bon. Il y a d'autres jeux en revanche. Bah, je pense à Super Punch Out. Punch Out Wii, ou je sais plus quel est le titre exact. Enfin, l'épisode qui est sorti sur Wii.
Qui s'appelle Punch Out.
Ouais, d'accord. lui, pour le coup, j'ai trouvé que c'était en fait, ils reprennent exactement les mêmes caractéristiques que l'épisode NES et que l'épisode Super NES, en ajoutant quelques petites choses par-ci par-là, mais qui n'enlève rien au plaisir de base, mais on reste dans l'esprit du trouver le bon schéma pour trouver le défaut le point faible du boss.
Et ils reprennent même plus de l'épisode NES que de l'épisode Super NES, puisque de l'épisode Super NES, finalement, ils gardent que quelques boxeurs, notamment Berger et Aaron Ryan. Qui sont Aaron Ryan, qui est peut-être le boxeur le plus délicieux à jouer, puisqu'il est totalement fou, il bondit dans tous les sens, il insulte le public, c'est un Irlandais, mais au niveau du caractère, ils l'ont vraiment vraiment réussi. Et on retrouve surtout tout ce petit système d'étoiles pour déclencher les super coups, alors que dans la version Super NES, tu te rappelles bien, t'avais une jauge
qui se remplissait
au fur et à mesure que tu prenais pas de coups et que tu portais des coups à ton adversaire.
Alors que là, ça fait un deuxième, voilà, il y a le point faible pour toucher et le point faible pour effectivement amasser ses étoiles. Il y a deux choses différentes.
Ils ont repris certaines astuces de l'époque NES qu'on connaissait tous à l'époque, comme le combo infini sur Don Flamenco, par exemple, ou concernant, je crois que c'est Piston Honda, si on le frappait à 1 minute 11 exactement, il allait directement au tapis, quel que soit l'état de sa barre de vie. Enfin, ils ont poussé le vice jusqu'à reprendre ces petites astuces que l'on connaissait à l'époque, enfin c'est ceux qui lisaient Nintendo Player quoi, on va dire, qui se passaient comme ça dans les cours de récré pour finir le jeu, et ça a été très 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 bien fait. C'est un plaisir de retrouver Little Mac de toute façon dans ses œuvres, la petite cinématique avec Doc Louis et Mac qui court derrière lui en survêtement rose. Il y a tous ces petits éléments là qu'ils ont repris. Ça fait Punch-Out fait partie de mes jeux de prédilection sur Wii. C'est un jeu que je trouve magnifique.
Oui,
dans tous les sens du terme, c'est un chef-d'œuvre.
Très réussi. Et après, en revanche, tu as prenons un New Super Mario Bros. Wii. Pareil, moi je trouve il est très bien, j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer, notamment avec les enfants.
Alors, New Super Mario Bros. Wii, tu le rentrerais dans la catégorie Reboot, Revival, Remake, malgré tout tu...
Mais le problème... Après, ça se va jouer à des détails, je vais prendre cet exemple-là, c'est qu'on retrouvait déjà dans New Super Mario Bros. Sur DS, c'est le poids du personnage. Voilà. Mario, il vole. Pour moi, il vole. Dans les deux New Super Mario Bros, c'est un Mario qui vole, quoi, qui est léger, qui est... Alors que, pour moi, un Mario, bah, il est assez lourd, il y a une inertie, il y a tout ça que je ne retrouve pas, je ne retrouve pas ce feeling dans les New Super Mario Bros. Alors, après, les jeux, moi, je les ai trouvés très bons en soi, mais il y a ce petit détail qui fait que, il me manque quelque chose par rapport au Mario que je connais et que je voulais revoir dans un jeu 2D. Tu vois. Et de la même manière, là, je vais prendre l'autre exemple, qui est sorti récemment, c'est le reboot ou revival, ce que tu veux, de Double Dragon Neon. Alors là, c'est pareil. Bon, je veux pas trop m'avancer parce que je n'ai joué qu'à la démo. Et il y a deux détails qui me chagrinent, pour moi, ce qui faisait deux éléments qui faisaient le sel du Double Dragon d'arcade, c'était de pouvoir cogner, de prendre quelqu'un, de cogner la tête contre le genou. Pour moi, c'était du haut de mes 12 ans à l'époque, c'était, oh, tu vois, quelque chose qui m'a profondément marqué. Et puis les manchettes, pouvoir faire des manchettes.
Oui.
Et alors, les manchettes, je sais plus, je crois qu'on peut pas les faire dans ce remake, mais je me trompe peut-être. Frapper la tête d'un adversaire contre le genou, ça on peut pas. Et pour moi, c'est l'essence de Double Dragon, c'est ça. Les souvenirs de Double Dragon, c'est je donnais deux coups de pied dans la tête, j'attrapais et je tapais sur le genou.
C'est pas Billy et Jimmy, c'est pas la petite amie enlevée.
Si,
c'est
ça
pas
commence pareil. Ça commence pareil. Ça commence pareil. D'abord, là, elle se prend un coup de poing dans le ventre, la petite.
C'est assez violent.
L'introduction est exactement la même. Alors avec d'autres graphismes. Alors ils ont respecté un univers bien 80s avec du néon, du flashy, du fuchsia, du tout ce que tu veux. Jusque la nausée. Après bon bah c'est il y a des nouveaux combos, il y a de nouveaux coups, il y a tout ça, on peut y jouer en réseau, c'est tout ça, c'est super, mais la musique est superbe aussi, est vraiment géniale, mais il y a ces petits détails qui me manquent, qui font que bah voilà, c'est pas du Double Dragon quoi. On aurait mis le jeu serait appelé Final Fight, j'aurais pas tiqué. Forcément. J'ai dit, ah oui, c'est un remake de Final Fight. Ça joue un peu de choses pour moi.
D'accord, effectivement. Donc en définitive, si on devait un peu essayer de subsumer, de résumer tous les exemples que t'as donné, donc Monkey Island, Kid Icarus, Punch-Out, Mario, Fox, etc. Qu'est-ce que tu attends d'un revival? Quels sont pour toi les éléments
je vais être assez conservateur hein, dans ce domaine-là et nostalgique forcément puisque ce sont quand même des titres que j'ai connus quand j'étais gamin ou plutôt ado. Donc faut que voilà l'essence, ce qui faisait le charme, le petit sel, ce qui faisait la différence par rapport à tous les autres titres, il faut que ça se soit conservé dans le remake ou le reboot. Si c'est pas le cas, ça peut être un très bon jeu, très bien réalisé, mais pour moi le titre est interchangeable. Quoi. On peut mettre n'importe quel titre et ça passera.
Mais comment ça se quantifie alors ce
bah le problème c'est le problème c'est que ça peut être très subjectif quoi.
C'est ça la question.
Le problème c'est que c'est très subjectif pour certains je sais pas sur un Double Dragon, ça va être la musique pour certains parce que les musiques de l'époque étaient très réussies et ont marqué beaucoup de joueurs dont moi. Donc si l'esprit de musique est là, on va considérer que le jeu c'est bon, c'est bien Double Dragon. Pour d'autres, ça va être l'univers. Si c'est dans la rue, il faut qu'il y ait de la rue, il faut qu'il y ait des tapis roulants, il faut qu'il y ait un ascenseur, il faut qu'il y ait à bobo, là, les gros balais, etc.
Bien sûr.
Il faut qu'on puisse attraper une batte de baseball, il faut qu'on puisse tout ça, ça y est. Pour moi, c'est c'est autre chose, quoi. Donc, je pense pas que je pourrais être un très bon chef de projet pour un remake parce que forcément je me fonderais sur uniquement moi ce qui m'a marqué et ce qui n'est pas et ce qui n'a pas c'est pas forcément ce qui a marqué les autres joueurs. Donc après je trouve que ce sont de très bonnes initiatives. De toute façon, encore une fois, on peut pas dire que ces licences-là aient été massacrées par des remakes. Il y a d'autres sans doute. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se plaignent d'autres licences Splatterhouse et Golden Axe, etc. Moi, je les ai pas essayés, donc je peux pas en juger. Mais on peut pas dire là que les exemples que j'ai cités, ils ont massacré la licence. Non, les jeux sont intrinsèquement, ils sont bons. Mais voilà. On peut mettre un autre titre.
Et quels seraient alors les jeux d'antan que tu aimerais bien voir revoir sous une forme nouvelle aujourd'hui? Est-ce que
alors bah j'aimerais bien Kid Icarus, mais un vrai.
Oui.
Tu vois, un Kid Icarus comme sur NES tout simplement. Donc de l'exploration et puis de la plateforme. S'il y a tous les jeux en FMV, en full motion vidéo.
Ah.
Ça,
tu parles à un connaisseur.
Ouais. cet été, là, je me suis refait Gabriel Knight 2.
Ouais.
Qui est super.
Donc le 2, c'est The Beast Within,
là, qui est tout en full motion vidéo. L'histoire est vraiment bon. Les acteurs jouent très mal, mais ça,
oui, mais
les dialogues sont vraiment fiches. Voilà, c'est l'histoire, le scénario est vraiment très intéressant. Enfin, ça donne une fois qu'on y a joué, on a envie d'ouvrir un bouquin sur Ludo de Bavière et sur Wagner. Mmh. Enfin, c'était passionnant. Et je me dis voilà, un jeu avec la technique d'aujourd'hui, où on n'aurait pas des vidéos toutes entrelacées qui piquent un peu les yeux. On pourrait. Alors, il y a un projet sur Tex Murphy.
Oui.
Qui a été lancé par Kickstarter. Donc moi j'ai versé mon obol pour que le projet ait les fonds suffisants. Je crois qu'il a atteint son objectif. Donc normalement on devrait avoir un nouveau Tex Murphy tout en full motion vidéo avec une bonne qualité cette fois de vidéo. Donc voilà, toi, un Gabriel Knight 2, un Phantasmagoria par exemple. Moi j'ai beaucoup aimé le premier. Le 2, je suis même pas sûr de l'avoir beaucoup progressé. Il était un peu plus violent, un peu plus gore. Mais le premier m'avait pas mal marqué. Donc voilà, c'est ce genre de jeu que j'aimerais bien voir renaître. Pas forcément tout chamboulé quoi, mais juste qu'on puisse y jouer dans de bonnes conditions, parce que là ça pique les yeux, faut bien le dire. Tu vois, autant il y a des jeux, bon, j'aimerais bien qu'ils nous sortent sur le XBLA comme ils ont l'habitude de sortir des jeux Dreamcast là de plus en plus. Là récemment il y a Sonic Adventures 2 qui est sorti. Moi j'aimerais
Jet Set Radio
aussi. C'est super. Moi je voudrais juste Skies of Arcadia et Shenmue. Je demande même pas, enfin si, pour Shenmue ce serait bien qu'ils me fassent le 3 quand même. Parce que moi j'ai toujours pas joué au 2 parce que j'ai pas envie. Tout le monde parle du cliffhanger de la fin, donc j'ai pas envie de connaître ça. Donc le 2, j'ai sur Xbox, j'ai sur Dreamcast, j'ai toujours pas joué, j'ai juste fait le début, puis je suis pas allé trop loin parce que. Mais ne serait-ce que les porter, voilà, faire un simple portage, hein, parce qu'ils sont déjà beaux en eux-mêmes sur Dreamcast, ces deux jeux-là, ça me suffirait.
Mais Skies of Arcadia, il y avait déjà eu le sur portage GameCube. Sur GameCube.
Mais ouais, mais va trouver le jeu GameCube, il coûte un rein là, c'est.
Ah bah je l'ai, hein.
Il coûte un rein maintenant.
D'accord. Si bah je le garde.
Voilà. Moi je l'ai, mais je l'ai acheté parce que je voulais y rejouer sur GameCube. Je l'ai acheté en version US. Il était pas trop cher encore maintenant. Ça. Mais mes enfants, je peux pas le faire découvrir à mes enfants parce que c'est tout en anglais. Donc bon, c'est dommage.
Et c'est bien pour leur apprendre la langue.
Oui, mais sûr, enfin quand même. C'est pas les quelques lignes de dialogue qu'on pouvait avoir dans les jeunesses, dans le Zelda. T'arrivais à peu près à comprendre, là il y en a un peu plus.
Ouais, bien sûr. Ok.
Voilà.
Bah alors merci Chapeau Paye de ton intervention.
Je t'en prie. C'est un plaisir.
Et puis, peut-être à une prochaine fois, alors dans un prochain podcast. Salut!
À bientôt!
Notre deuxième intervenant pour cette deuxième partie du premier gros cast de la deuxième saison sera Karl. Alors du coup, Karl, avec toi, je voulais aborder une question d'ordre sémantique sur les définitions qu'on pourrait trouver au terme de reboot, remake, revival, voire spin-off, puisque la frontière est parfois floue entre toutes ces notions. Donc on va essayer de mettre un peu d'ordre là-dedans en essayant de trouver des exemples de titres qui illustreraient chacun de ces concepts. Alors on va commencer peut-être par celui qui me semble être le plus simple, qui serait le remake. Alors, pour moi, un remake, la définition la plus simple qu'on puisse trouver, c'est qu'on a un vieux matériel, et on va le mettre au goût du jour en mettant au point notamment tout ce qui est de l'ordre des graphismes, en ajoutant quelques fonctionnalités comme la sauvegarde ou des choses comme ça, le cas échéant si ce n'était pas présent. Et donc avec Fred, on parlait par exemple des Monkey Island Special Edition, donc qui sont les mêmes jeux mais qui ont été revisités graphiquement. Pour moi, ça c'est la définition canonique, on peut dire, du remake. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Ouais, bon, le remake c'est plus un coup de peinture, un dépoussiérage, et puis voilà quoi. C'est tu joues sur la corde sensible des gens, et c'est marrant parce que le remake, bon, ça a toujours un petit peu existé, que ce soit dans le cinéma ou même dans le jeu, puisqu'il y a, c'est arrivé, mais il y a vraiment eu un gros boost de ça quand sont arrivées les plateformes des maths. Mmh. Et surtout la Xbox, même la première du nom, t'avais déjà quelques remakes. Me demande pas de titres parce que je les ai pas et puis j'ai pas envie de chercher, je t'avoue. Mais c'est vrai que depuis la 360, tu regardes dans le limite le line-up de la sortie Xbox Live Arcade, t'as eu quelques jeux qui ont été développés pour, mais t'avais quand même pas mal de remakes et encore des fois même des les mecs se prenaient même pas la tête à refaire un remake, ils te balançaient limite une ROM émulée sur le coup. Je pense à Gauntlet, je pense à Galaga. Et ouais. Voilà quoi. Bon, après, oui, t'as eu des coups de peinture, t'as eu la possibilité de mettre un filtre HD entre guillemets.
Voilà, juste tout à fait.
Un retravail de texture. Mais ce qui était marrant, c'est que les mecs, soit ils avaient pas de couilles, soit ils étaient partis du principe de se dire, de toute façon, on va ratisser large comme ça, on pourra pas se faire taxer de par les intégristes en disant ouais c'était mieux avant et donc ils avaient 99% du temps la possibilité de repasser outre le filtre de lissage graphique. Mm-hmm. Donc voilà, après c'est bien, ça a permis de, enfin moi le premier, ça me permettait de jouer dans des conditions sympas, vautrer dans le canapé avec la manette Xbox. Mmh. Et puis avec deux trois trucs en plus, genre les leaderboards and co, de pouvoir jouer. Il y avait du netcode qui était plutôt pas trop mal foutu dans la plupart des cas, et donc ça permettait de jouer ensemble quoi. C'était plutôt pas mal, surtout pour le prix que ça coûtait.
C'est ça, oui. C'était un prix modique. Ça permettait parfois, quand on avait plus accès à la console d'origine ou au jeu d'origine, ou si on avait la flemme de la rebrancher ou quoi, d'accéder au même jeu, plus ou moins, peut-être un peu plus beau, peut-être avec, comme tu disais, un leaderboard, quelque chose en plus, mais finalement, ça nous permettait de revenir vers des choses passées à peu de frais, voire même à faire déconnaître à des nouveaux joueurs qui seraient passés à côté à l'époque des jeux généralement assez intéressants dans leur domaine.
Tu vois, même pour moi qui suis pas trop mal équipé au niveau émulation, entre la première Xbox avec la puce, entre les bornes d'arcade dans le garage et puis même sur le PC depuis quelques années. Voilà, mettre la main à la poche pour ce genre de jeu et pouvoir jouer en ligne avec des potes, alors que c'est possible avec MAME, hein, parce que t'as les versions de MAME qui te permettent de jouer en ligne. Mm-hmm. Voilà, c'est même pas ça, quoi. C'était vraiment la solution de facilité. Et puis, est-ce que c'est pas un acte d'amour que de se faire baiser par un jeu qui t'a...
Ah mais moi, de toute façon, je sais que moi, à chaque fois qu'il y a une édition de Zelda qui sort, que ce soit une Link to the Past, Ocarina of Time ou quoi que ce soit, je finis par le racheter, quoi qu'il advienne. Hein. Comme Super Mario, comme une chose comme ça, je dois avoir 4 ou 5 versions de Super Mario Bros. Selon les différents polissages qui ont été faits, que ce soit des nouvelles sorties, les All-Stars, la version sur la console virtuelle qui corrige un petit bug, la version 25 ans qui corrige encore un petit quelque chose, enfin, ça je suis... Il y a des jeux comme ça, je ne peux que céder de toute façon. Donc, Revival, peut-être pas la chose la plus importante ici. Alors maintenant, quelque chose de plus compliqué, remake je veux dire. Quelque chose de plus compliqué, le reboot. Alors, le reboot, si on doit en faire une définition très large, ça serait, on repart à zéro. C'est-à-dire, il y a un jeu, un film, n'importe quoi, un univers qui a été développé par le passé, qui a été laissé inexploité pendant quelque temps, et puis arrive un moment où l'éditeur, ou un autre éditeur d'ailleurs, décide de tout reprendre à zéro, et de faire comme si c'était un tout nouvel univers, un tout nouveau personnage, et de repartir à partir de là. Donc, après, est-ce que le reboot va-t-il conserver ou pas un lien avec la série d'origine ? Ça, c'est encore une autre question. Mais en matière...
C'est un travail dans le reboot, hein. Les mecs, justement, vont ratisser large et puis vont me balancer un petit clin d'œil dedans, que ce soit au niveau de la musique ou un personnage ou le nom d'une arme ou un machin comme ça. Un exemple assez frappant, mais au niveau reboot, quand tu me parles de reboot, la première chose à laquelle je pense, moi, c'est Ninja Gaiden. Ninja Gaiden, c'est pour moi l'exemple parfait du reboot. Il y en a sûrement eu avant, mais celui-là, je le trouve vraiment particulièrement parlant. Parce que déjà, tu te retrouves sur une console qui était assez récente, qui n'était pas forcément dans l'idée des joueurs de l'époque, parce qu'il faut penser que Ninja Gaiden, quand il est sorti sur la première Xbox, c'était un peu le principe Bayonetta 2 sur Wii U. Ouais, c'est quoi ce bordel? Ils sortent ça sur une console à la con, machin, etc. Nous, les hardcore gamers, on a notre permis et on n'est pas d'accord. Et grand mal leur a pris, parce que s'ils n'ont pas joué à Ninja Gaiden alors qu'ils aimaient la série, c'est que c'était les gros cons. Mais bon, bref.
Alors, juste pour indication, pour situer un peu dans le temps, le dernier titre Ninja Gaiden qui était sorti lors de la première, on va dire, de la première époque, donc c'est-à-dire qui a commencé sur arcade et sur NES, est sorti, donc si on veut parler des épisodes purement originaux, en 92 avec la version Master System, et en 95 sur Super NES sur Ninja Gaiden Trilogy, et le premier de la nouvelle génération de Ninja Gaiden, donc sur Xbox, est sorti en 2004. Donc pour voir un peu, ça fait 12 ans, quasiment, 12 ans après, on revient. Alors Ninja Gaiden sur Xbox, est-ce que vraiment dans l'histoire, c'est considéré comme le l'an zéro de Ninja Gaiden? On considère plus
non,
tout ce qui s'est passé
pas
avant
si tu vois, même on pourrait partir dans le principe de dire, ouais, c'est une suite naturelle. Parce que c'est ça un peu le problème dans le reboot, c'est que, ok, tu peux remettre l'histoire à zéro, dans ce cas-là, tu pars dans le reboot. C'est pas un remake parce que tu reprends pas le même jeu avec un habillage différent, et c'est pas vraiment un spin-off parce que tu gardes quand même la trame de base et le personnage de base. Mais suite naturelle, est-ce que l'évolution te demande forcément de remettre ton travail complètement à plat? Je suis pas sûr. Donc, tu vois, je le vois plus comme un reboot, même s'il reprend pas l'histoire depuis le départ, dans le principe de dire, ok, bah voilà ce qu'on avait fait avant, on n'a pas oublié ce qu'on a fait, l'histoire, on la connaît encore un petit peu, c'est pas une suite, on reprend pas au début, mais voilà comment on voudrait que ça évolue. C'est plus l'évolution naturelle, la mutation de la chose. Et donc voilà, quoi, c'est ça qui est assez sympa dedans. Et puis, tant au niveau de la mécanique de jeu, bon, après, ils sont partis du postulat de dire, oui, les jeux, au départ, ils étaient difficiles, et nous, on va faire un jeu où tu vas suer des larmes de sang pour pouvoir le finir.
C'est vrai que les versions NES, déjà, de Ninja Gaiden, je me souviens pleurer à l'époque en essayant de passer certains stages. J'ai jamais pu finir le premier jeu, hein. Même sous émulation, sans abuser des save states, il est quand même très hardcore.
Mais bon, après, c'est peut-être qu'on a un peu émoussé aussi, puisque à l'époque, on avait tendance à s'accrocher un peu plus aussi, quoi. Et pourtant, je suis pas de ceux qui disent que c'était mieux avant. Hein.
Bien sûr. Mais même à l'époque, Ninja Gaiden était considéré comme un jeu particulièrement difficile. Hein. Je me souviens dans les magazines, c'était quelque chose. C'était du même ordre que Ghost and Goblins ou les Mega Man, on veut dire. C'était considéré comme des jeux sur NES assez compliqués à terminer, pas forcément infaisables, mais relativement méchants et sans pitié pour le joueur, aussi aguerri soit-il.
Ouais, mais tu vois, moi, ce que j'aime dans Ninja Gaiden, et souvent, enfin, je pense que j'en ai déjà parlé sur le forum, si j'en ai pas parlé sur le forum, j'en ai déjà parlé. C'est dans Ninja Gaiden, quand tu te fais ramasser, c'est ta faute. C'est parce que le système de jeu est totalement compréhensible, et il y a des moments où tu vas être moins concentré que d'autres, où l'IA va être un peu plus concentrée que toi sur le moment, et quand tu te feras ramasser, tu comprendras pourquoi tu te fais ramasser. Et ça, c'est vachement intéressant. Parce que c'est pour ça que j'aime ce jeu, et c'est pour ça que je suis arrivé à la fin et que je me suis accroché. Même s'il m'est arrivé quelques fois de prendre la manette, d'enrouler le câble autour, et de dire, je vais faire autre chose, parce que sinon, je vais flinguer la télé.
Il y a quelque chose de très intéressant dans ces jeux-là, dans Ninja Gaiden, ça m'est arrivé, c'est que à force de faire la même séquence de jeu une dizaine de fois, il arrive un moment où on devient bon.
Ben ouais, mais c'est un seul moment de flow state qui est absolument génial, quoi. Cet état de grâce dans lequel tu es, où ça passe, et ça, c'est un pur bonheur.
On a une mémoire musculaire de la situation, on analyse les choses à vitesse grand V, parce que même si le placement des ennemis est toujours plus ou moins fixe, il y a toujours des variations, puisque les ennemis réagissent en fonction de tes propres actions. Voilà.
C'est pas une dangereuse, quoi, c'est... Tu te retrouves pas avec le pont qui va péter au même endroit tout le temps.
C'est ça.
Le pont qui va arriver à tel moment.
Il y a toujours une part d'analyse et de variation dans le gameplay qui fait tout celle de celui-ci. C'est-à-dire même en développement une stratégie parfaite en disant je saute là comme ça, je rebondis, etc. Il y a toujours l'ennemi qui va faire un pas de côté ou qui va balancer un projectile qu'il n'a pas fait auparavant et qui fout toute ta stratégie en l'air, et ce qui t'oblige à t'adapter et à développer constamment de nouvelles stratégies pour survivre. Très intéressant comme jeu Ninja Gaiden.
Ouais, on parlait de reboot, mais tu vois, tu peux aussi te poser la question, c'est le même principe, sur les Tortues Janine,
voilà.
qui sont sorties des beat'em all sur le reboot du dessin animé.
Voilà.
Le reboot du dessin animé.
Mais c'est là où je voulais en venir.
Est-ce que tu peux vraiment considérer ça comme un reboot, quoi?
C'est ça. Parce que on est quand même bien dans l'esprit des vieux jeux Tortue Ninja qu'il y avait à la Turtles in Time, etc. Donc, est-ce que un reboot de dessin animé a coïncidé avec le reboot de la série de jeux vidéo? C'est ça qui est intéressant.
Oui, bah, ils sont basés sur le même matériel, hein.
Ils sont basés sur le même matériel, certes,
oui,
mais...
Oui, ça a été prévu, la série de jeux vidéo, enfin la série... D'ailleurs, je crois que c'est sorti en comics d'abord, avant d'être adapté en...
Ça, je ne sais pas.
Ça vérifie, hein. Je dis peut-être une connerie, mais je suis pas sûr. Le dessin animé est sorti, et après le dessin animé, le jeu vidéo a été adapté sur le chara-design du dessin animé, qui lui-même, de mon souvenir, mais je peux me tromper, donc je mets un gros bémol là-dessus, venait du comic. Donc voilà. Après, c'est un reboot parce que t'as quand même une partie de l'histoire de base qui est gardée, mais t'as quand même certaines choses qui évoluent, quoi. Mmh.
Donc c'est intéressant de voir comment comme ça le jeu vidéo finalement aime bien ressortir des vieux jeux ou de vieilles icônes à intervalles plus ou moins réguliers tous les 5 ou 10 ans. On va repartir sur quelque chose qui a déjà été fait, que ce soit un univers, un personnage. Là, bientôt sort le nouvel épisode, par exemple, des Great Giana Sisters, qui a été un des jeux cultes, fut un temps, l'un des plus célèbres clones de Mario.
C'est un remake ou est-ce que c'est un reboot ou... c'est un remake, là.
C'est pas un remake puisque ça suit pas le jeu original, c'est un tout autre jeu avec le personnage des sœurs Giana. Donc on approche du revival.
On prend mal avec Nintendo.
Parce que quand tu regardes les vidéos de la nouvelle version des Giana Sisters, ça n'a plus rien à voir avec Mario. Autant quand tu regardais le jeu original et Mario côte à côte, oui, tu voyais la connexion. Autant là, tu as un jeu qui est très très péchu et qui va plus se rapprocher, je pense, de comment s'appelait ce jeu de plateforme sur Xbox et PlayStation où tu dirigeais 3 personnages en même temps, un guerrier, un sorcier, un archer.
Non. C'est pas Trine ?
Trine, voilà, tout à fait. Je trouve qu'il y a un petit côté Trine dans celui-là.
Je sais pas, je t'avoue, j'ai pas regardé les vidéos, c'est pas ma cam, ça. Donc, je fais mon coming out, je me sache avec Laurent. Je n'ai pas mis d'argent sur Kickstarter. Oh, je me dois de l'avouer.
Moi, je mets de l'argent dans mes pattes. Le jour où on fera pas sur Kickstarter, je cliquerai, mais là...
Non, moi, il me suffit, je crois, un Wing Commander, mais Chris Robert, il a décidé de faire autre chose. Ah, le con.
Donc, reboot, remake, revival et spin-off. Alors, le spin-off, c'est encore autre chose. C'est une série dérivée. C'est quelque chose qu'on connaît bien à la télévision, ça, pour les séries télé. Les séries dérivées. Tu te rappelles de Buffy contre les vampires? Eh ben, on vous fait Angel à côté. Série dérivée. On prend un personnage, on prend un élément de
série. On commence à faire un truc qui était pas mal et faire un truc pour les émos derrière.
Tout à fait.
Et après, on s'étonne que les émos, ils regardent Twilight avec des vampires qui brillent quand ils prennent le soleil. Non, mais franchement.
Donc, le spin-off, on peut par exemple considérer que Yoshi's Island est un spin-off de Super Mario World. En soi. Parce qu'on on reprend un.
C'est un spin-off, mais en plus, là, enfin, ouais, t'es dans le spin-off, mais en gardant les mêmes mécaniques, c'est ça qui est assez drôle.
Il y a quand même pas mal de différences avec Mario World. Il n'y a pas de power-up, c'est pas tout à fait, ils sont pas permanents, les niveaux sont plus basés sont très grands, il n'y a pas de notion de score, de temps, la carte n'est pas libre, parce que tu fais tous les niveaux les uns après les autres. Pour moi, c'est un esprit qui est très différent. Donc à ce moment-là, le spin-off, ça serait on garde le personnage principal et on lui fait vivre une toute autre aventure. Avant d'enregistrer, tu parlais par exemple des Metroid Prime. Et donc les Metroid Prime seraient des spin-offs, finalement, de la série Metroid canonique.
Ouais, parce que tu rentres vraiment, mais dans ce cas-là, c'est là que c'est compliqué de définir le reboot, le remake et le spin-off. Parce que dans ce cas-là, ce que tu me dis pour Ninja Gaiden, c'est la même, puisqu'on part d'un jeu d'action plateforme en 2D à un jeu d'action plateforme en 3D, mais avec un système de mécanique combat plus basé sur le beat'em all qu'autre chose. Parce que voilà, c'est là où tu pourrais limite le traiter de spin-off, ce Ninja Gaiden. Et donc, si on se base là-dessus, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, la ligne est très fine. Et quand on parle aussi de suite naturelle, est-ce que c'est pas une juste évolution des choses en disant, tiens, on a la matière. On se dit, on va faire évoluer le truc. Et comment on voudrait le faire évoluer? Comment on voudrait le voir? Comment on l'a rêvé? Quand tu te parles de Metroid, tu te dis, j'extrapole complètement, mais est-ce que les mecs qui ont développé se sont pas dit qu'est-ce qui m'aurait fait rêver au moment où j'étais en train de jouer à ce jeu-là? Comment je me suis imaginé le truc? Est-ce que je m'imaginais pas de regarder à travers le casque de Samus pour explorer? Et donc, pris de ce truc-là, de se dire, ah bah ouais, c'est vrai, si l'exploration l'a rentré dans ce truc et est-ce que ça a été développé comme ça? Je sais pas, je dis peut-être une grosse connerie.
C'est alors, je ne sais pas du tout, mais moi, ce que je me demande, c'est si pour ces cas-là, en fait, les développeurs avaient pas déjà une idée en tête de leur gameplay, comme pour Ninja Gaiden d'ailleurs, et qu'à un moment donné du développement, il y a un mec qui est venu qui fait, attendez, on va garder le même jeu, mais on va mettre l'apparence de Ninja Gaiden, de Metroid, on va mettre les persos, on va mettre l'univers. Poum. C'est-à-dire que le processus n'est pas le même, si tu vois, de base. C'est que d'un côté, on part avec un personnage.
Après, je pense que sur des séries comme ça, je pense pas que tu t'amuses à aller chercher une licence au moment où je pense que c'est un peu réfléchi quand même dans le principe de se dire tiens, on a cette licence qui dort chez nous, on va pouvoir faire vibrer la corde nostalgique des gens. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette licence? Comment on pourrait l'adapter au jour d'aujourd'hui? Ninja Gaiden, c'est naturel de le faire rentrer dans un système de combat un peu poussé. Même si c'est pas aussi poussé au niveau du combo que peuvent l'être un Bayonetta ou un Devil May Cry, ça reste dans la même mouvance, on va dire. Et ça s'adapte par rapport à ça. Le fait de dire Metroid, je le passe en Metroid Prime, en vue à la première personne, La première fois qu'on a entendu parler, je sais pas si tu t'en rappelles, mais il y a eu une putain de levée de bouclier à l'époque en disant mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec mon jouet, quoi.
Surtout quand on a appris que c'était pas développé également en interne à Nintendo, mais que c'était un autre studio.
Par Retro Studio. C'est des Ricains, je crois.
C'est des Américains, ce qui a ajouté de plus à l'incertitude, puisque auparavant les seules images qu'on avait eues vraiment d'un Metroid avant ça ne faisait pas du tout état d'une vision dans le casque de Samus. C'était plus ça partait plus sur une direction comme le sera plus tard le dernier Metroid,
la version fait par voilà. Kojima à l'info, là.
Voilà, tout à fait. Je sais plus comment est-ce, j'ai un trou de mémoire.
Écoute, faut peut-être oublier, parce que je crois qu'il a pas laissé un
périssage. Je sais que beaucoup de gens l'ont apprécié. J'ai des amis qui l'ont beaucoup apprécié, qui l'ont trouvé très profond, très intéressant. Personnellement, je n'ai pas accroché.
Tu vas avoir des problèmes.
C'est Metroid Other M. Voilà, c'est ça. Metroid Other M. J'ai pas accroché parce que justement, il y avait un système de jeu, en fait, de combat qui n'était pas ce que j'attendais d'un Metroid, en fait. Puisque dans Metroid, ce que j'aimais bien, c'était pour les Metroid 2D, s'entend. C'était l'aspect exploration et le fait qu'à part pour les boss, les ennemis n'étaient jamais vraiment un obstacle. Tu ne t'arrêtais jamais vraiment sur les ennemis. Tu cherchais surtout à trouver ton chemin dans le labyrinthe. Dans Metroid Other M,
voilà. Vachement imposé par la musique aussi.
C'est un tout, évidemment. Et dans Metroid Other M, en fait, chaque ennemi lance un combat assez long. Ça dure une minute trente, deux minutes quand début t'es pas très équipé.
Pourtant, t'as aimé les Metroid Prime et dans les Prime, t'as quand même pas mal de combats qui sont un peu compliqués.
Oui, mais je suis d'accord.
De se mettre à couvert, de réfléchir à sa tactique et tout.
Je suis d'accord, mais c'est peut-être parce que la forme du jeu me faisait le rapprocher davantage d'un Doom-like, et donc que j'étais prêt à faire ce compromis-là, alors que Other M gardait la structure 2D, on va dire, de Metroid traditionnel, même si c'était pas de la vraie 2D, mais plus de la 2D et demi, 3D, enfin un style un peu hybride. Ce qui fait que j'ai trouvé que ces rencontres-là coupaient le rythme de l'aventure. Et c'est pour cela, en fait, que j'ai eu un gros blocage avec Other M que je n'ai pas fini. Justement, à cause de ça, j'ai eu un gros problème de rythme sur ce jeu.
J'ai eu l'occasion de le tester, il faudrait que je tombe dessus.
En soi, je pense sincèrement que ce n'est pas un mauvais jeu. La réalisation est très honorable, les commandes répondent bien, le système où tu passes du mode 2D en mode justement plus Metroid Prime en pointant la Wiimote sur l'écran, etc. est pas trop mal foutu. Bon, il y a des bonnes idées, mais je n'ai pas du tout accroché. Déjà que je trouve que le jeu souffre d'un rythme très lent. Il y a beaucoup de cinématiques, il y a beaucoup de parlottes. Samus, qui auparavant était une héroïne très silencieuse, puisqu'elle s'est mise vraiment à... Voilà, mais Samus s'est mise à s'exprimer réellement à partir de Metroid Fusion, quand on y pense. Parce que dans les Prime, en fait, elle ne parle pas. Elle scanne les objets, c'est son ordinateur qui lui donne telle ou telle indication, mais ce n'est pas elle qui donne les informations. Et dans Fusion, on a eu droit pour la première fois à des cutscenes, à des moments clés de l'aventure, où Samus parlait à la première personne en disant « Ah oui, cela me rappelle Adam, Malkovich, ça, machin, etc. Patati patata. » Bon. Et je trouve que c'est une mauvaise idée. Parce que justement, comme tu disais, les Metroid, c'est avant tout de l'oppression, de la solitude, c'est alien, hein, c'est dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Et en mettant comme ça une narration trop présente, j'ai trouvé que ça cassait le rythme. Mais après, c'est un avis qui n'engage que moi.
J'en ai trouvé un vrai.
Ah, vas-y.
Qui va faire super plaisir à JK.
Dis-moi.
Splatterhouse.
Ah, Splatterhouse, le fameux Splatterhouse qui dit...
Mais tu sais, ça reste entre nous, ça t'enregistre pas.
Hein. Je couperai au montage, t'inquiète pas.
JK, il aime pas Splatterhouse parce qu'il aime pas le métal. Faut pas dire ça parce que sinon tonton Ben il va venir lui péter les genoux. Mais voilà, il aime pas Slateros parce qu'il aime pas le métal. Et puis, à mon avis, c'est juste que c'est une CC et que il a eu peur parce qu'il y avait trop de sang.
Alors, Splatterhouse, donc le premier titre original donc sur arcade qui date de 1988. Et donc, le fameux reboot, revival, remake, je ne sais pas trop encore sous quel titre on peut appeler ça, 2010. Donc là, ça fait quand même un sacré temps. Bon, Splatterhouse 3...
Mais ça, c'est un vrai reboot, hein, parce que tu reprends vraiment l'histoire du départ. Le système de jeu reste un système de beat'em all, mais adapté à une époque plus moderne.
Donc,
parce que tu restes quand même dans du 1 contre 1.
Mm-hmm.
Enfin, 1 contre 1, tout est relatif. Tu restes vraiment dans du beat'em all, mais adapté avec un système de combo, de machin, etc. T'as quelques phases de plateforme, mais c'est juste parce que ils pouvaient pas mettre tout en rez-de-chaussée. et ce qui est marrant dans le jeu, c'est que t'as quelques niveaux qui sont des hommages totalement assumés parce que la caméra passe en mode 2D, enfin 2D et demi, quoi.
Mm-hmm.
Où tu as de nouveau la mécanique du jeu des premiers jeux en arcade Splatterhouse.
Mm.
Donc ça c'est un clin d'œil totalement assumé, mais bon après c'est marrant parce que beaucoup de gens disent que c'est une putain de daube machin etc. Donc, je trouvais ça un bon jeu popcorn quoi. Et après Splatterhouse, excusez-moi, mais même à l'époque, à part le fait que le remettre dans le contexte c'était un peu subversif, c'était encore la grande époque bénie des films d'horreur et tout ces toute cette sous-culture années 80, et sous-culture dans ma bouche, c'est plutôt majoratif que péjoratif. Mais voilà, c'est un peu idéalisé. Après, tu regardes, oui, il y a des lourdeurs, oui, il y a plein de choses qui auraient pu être mieux, mais moi, j'ai passé un bon moment sur ce jeu-là. C'était totalement assumé dans la décom. Il y a des moments qui sont un peu lourds, où il faut refaire systématiquement les mêmes QTE, les machins. Et ça veut jouer dans la surenchère sans avoir vraiment la possibilité de le faire correctement. L'histoire tient sur un demi-timbre-poste, mais je sais pas, moi j'ai pris... je devais être peut-être dans les bonnes dispositions pour le faire. Mmh. Le système de combat est développé sans être totalement imbuvable. Et puis voilà quoi. Et puis après, la bande-son est absolument géniale, n'en déplaise aux gens qui n'aiment pas le métal. Mais je ne les citerai pas par bonté de cœur.
Très bien.
Ça, tu vois, quand on parle de reboot, ouais, je peux penser à ça. Mmh.
Mais alors, c'est peut-être une impression, mais il me semble qu'avec l'émergence, on va dire finalement assez récente, du phénomène Kickstarter, ce genre de choses, c'est-à-dire des reprises d'anciennes séries, d'anciennes licences qui ont été oubliées pendant plusieurs années, est en train de cette tendance est en train de s'accélérer, qu'on voit de plus en plus des.
Mais en même temps, tu veux taper dans la poche des fans. T'as deux solutions. Soit tu dis ouais, je suis le mec de ce studio qui a fait tel jeu à l'époque et depuis j'ai rien fait. Putain, ça donne confiance. Et de l'autre côté, tu as oui, je suis le mec qui a fait ce jeu que tu aimes tant et que quand tu en parles, tu as les yeux qui brillent et les trémolos dans la voix. Oui, je veux en faire un autre, mais je n'ai pas d'argent et pas de studio qui veulent me suivre. Viens sur Kickstarter avec moi pour qu'on fasse un jeu sur lequel tu seras déçu, tu vomiras ta haine, mais tu auras financé pour le faire, donc tu fermeras ta gueule. voilà, quoi, c'est Kickstarter. Bon, ok, il y a des trucs qui sont vachement sympas, mais quand tu regardes le nombre, entre guillemets, de vieilles gloires qui ont pas fait grand chose à côté, ou peut-être pas parce qu'ils en étaient pas capables, mais parce qu'on leur a pas donné la possibilité, à cause du marché aujourd'hui et de la façon dont a évolué les différentes consoles, parce que le jeu sur PC, à part en indie où ça continue à redévelopper un peu, et le jeu PC qui est en train de reprendre un peu de couleur depuis que la course à l'armement au niveau des cartes vidéo et des pros s'est un peu calmé, voilà, ça reprend un peu de couleur, mais pourquoi le jeu sur console s'est développé et pourquoi on s'est retrouvé enfermé dans du AAA imposé pour pouvoir vendre? Bah parce que au bout d'un moment, les mecs, si vous avez envie de jouer sur PC, changez de carte vidéo tous les mois pour pouvoir jouer correctement. J'exagère un peu, mais j'en suis pas très loin, quoi. Si tu veux jouer à un jeu, je vais dire une connerie, mais si tu veux jouer à un beat'em all, je te parle pas d'un jeu comme Dota ou comme League of Legends où tu peux te permettre de jouer avec un peu moins de détails. Enfin voilà, ça demande pas la même chose. Si je joue à un Skyrim ou à un Oblivion ou à un Devil May Cry, j'ai envie de jouer dans les bonnes conditions et pas me retrouver avec des textures un peu pourries, des ralentissements, des machins comme ça. J'ai envie de jouer dans les bonnes conditions.
Bien sûr.
Et voilà, donc tu te retrouves avec une évolution du marché et c'est un peu logique que pas mal des acteurs soient retrouvés sur le bord de la route. Après, oui, tu as des ovnis je vais pas réussir à trouver son nom, créateur de Monkey Island.
Ron Gilbert.
Merci. Tu as trop de mémoire. Hein. Ça doit être l'alcool. Ça. Non quoi. Il paraît que l'alcool ça conserve. Donc bon, ça doit pas être ça. Donc bref, tu vois, lui, il va venir lever du fond pour lancer quelque chose sur lequel il va pas forcément être suivi par des financiers ou par des gros studios parce qu'il est un peu pris par les couilles. Parce que lui, il est pris entre deux feux parce qu'il bosse. Et il fait des jeux, et même s'il arrive encore à en sortir un petit peu de temps en temps, des trucs un peu en dehors de la ligne de conduite FPS, gris, Enco, un appel sur Kickstarter va lui permettre de faire autre chose, ou une évolution de quelque chose qui va l'intéresser par rapport à une vieille gloire qu'il pouvait avoir, ou un jeu, et pouvoir parler aux personnes qui ont vraiment envie de voir ça. Tu regardes un exemple tout bête. Les jeux en full motion vidéo, genre les Tex Murphy et co. Quand j'ai vu ça sur Kickstarter, je me dis c'est bien parce que c'est le genre de truc. Ok, tu proposes ça à un éditeur, le mec il va te rire au nez, il va t'envoyer te faire foutre et à juste titre parce que ça va pas se vendre en dehors d'un public d'initiés. Parce que c'est pas ce que les gens recherchent aujourd'hui et que par rapport au parc de consoles qui est développé aujourd'hui, il faut voir en dehors du prisme de hardcore gamer et d'initié qu'on peut être. Mais voilà, mais un jeu en full motion vidéo, tu vas peut-être pas avoir envie d'en faire 15, mais tu vas peut-être avoir envie d'en faire un de temps en temps. Et quitte à en faire un de temps en temps, peut-être tu seras plus attiré par une série que tu avais déjà suivie à l'époque, genre les Tex Murphy, parce que ça va te ramener dans un univers que t'aimes bien, et le principe Madeleine, quoi. Donc, dans ce cas-là, Kickstarter, pourquoi pas? Mais après, tous les projets Kickstarter montés sur du vent, ou alors vraiment à jouer uniquement sur la fibre nostalgique en disant « Oui, on est les pauvres petits développeurs, on nous laisse pas faire ce qu'on aime, donc on compte sur vous, les fans », ça me fait mal, quoi. Ça me fait mal. Honnêtement, voilà, quoi. Mais bon, après, c'est mon avis qui n'engage que moi, et si les gens sont pas d'accord avec moi, tant pis pour eux.
Bon, je crois que le message est passé. Mais alors, plus personnellement, toi, te concernant, est-ce qu'il y a une licence Madeleine que tu aimerais bien revoir aujourd'hui, avec un peu de polish, un nouveau gameplay, avec l'équipe d'origine est-ce qu'il y a un jeu comme ça qui te... En y pensant, à l'occasion, tu dis « Ah oui, tiens, ça serait bien. »
Ouais, tu sais, moi je suis fan, hardcore fan des Space Opera, et je rêverais d'avoir un Wing Commander comme à l'époque, mais le problème qu'il y a, c'est que le jour où ils sortiront, il manquera trois quarts des trucs que j'aurais envie, et que ce sera plus adapté à ce qu'on nous a habitué aujourd'hui, donc je préfère garder ma Madeleine et la meilleure goût dans mes mémoires que si je l'avais dans la bouche, ce serait toute sèche.
Et c'est un peu ça le danger avec la sortie des vieilles gloires, comme tu disais, c'est d'être déçu puisque le résultat ne correspondra jamais en fait à l'image de rêve qu'on s'est construite au fur et à mesure des années.
Mais c'est vrai qu'un bon Space Opera, ça me ferait plaisir, mais le problème qu'il y a, c'est que je sais que demain, si les mecs ils te sortent un Space Opera, ils vont se sentir obligés de te rajouter des principes de gestion à la con, des trucs en tour à tour, machin, etc., qui vont me gonfler et je vais être déçu. Alors que moi, ce que je veux dans un Space Opera, c'est une histoire à la con et du combat spatial et des moments tristes, des moments de joie, et enfin voilà, je veux un Wing Commander, quoi. Mais bon. voilà, si tu regardes, il y a encore des trucs hein, qui sont pas mal dans le space opéra. Sur tablette, il y a pas mal de trucs qui sortent. Et voilà, c'est encore une fois sur tablette. Et si on peut pas brancher un joystick à retour de force pour pouvoir
en profiter, oui, on perd quelque chose.
Ouais, tu perds un truc, quoi. Ce qui veut pas dire que la version Super NES de Wing Commander ne pas fait passer quelques moments assez fantastiques. Mais bon, ça c'est encore la Madeleine qui part.
Alors, si tu devais un peu t'improviser, mettre à penser pour tous ces développeurs, quels seraient les conseils ou le conseil que tu donnerais à celui qui veut faire revivre une vieille gloire? Quel est l'élément selon toi qui fait la réussite d'une sortie comme ça?
La première règle, ne pas écouter les fans.
Ça me rappelle ce que disait Goscinny à propos de Pilote. Il disait, le jour où ce seront les lecteurs qui feront le journal, j'aurai plus qu'à démissionner.
Et voilà, c'est exactement ça, quoi. Après, je pense qu'il faut vraiment aimer la licence pour faire quelque chose de bien. Et tu vois, Ninja Gaiden, c'est un truc qui était tellement... Je pense que les mecs l'ont fantasmé quand ils l'ont fait. Et ils se sont dit, bah tiens, j'ai envie de le voir comme ça, et c'est pour ça que c'est sorti, et que ça a marché. Alors qu'il y avait quand même des trucs qui étaient un peu rédhibitoires dedans, la difficulté pour la plupart des gens, au point que la sortie européenne proposait un mode facile, quoi. Et puis il y a des placements de caméra qui sont absolument invivables, et il y a des moments dans le jeu où si t'as bouffé, si t'as sauvé au mauvais moment, ou même t'as les sauvegardes automatiques, tu te retrouves dans un moment qui est totalement inextricable, et à moins d'être vraiment le mec le plus, ou la nana le plus chouné de la Terre, tu passeras jamais le moment, tu te retrouves coincé, et puis tu dis, bon bah tant pis, c'est pas pour moi qu'ils allaient se faire foutre, et puis voilà, quoi. C'est un peu triste, mais voilà, mais après, ça fait partie de ces choses... Dans les séries, tu vois, il y a plein de séries dont on pourrait parler. Et moi, ce qui me parle beaucoup, tu vois, on parlait de reboot tout à l'heure. Le reboot, c'est souvent des séries de l'âge d'or de l'arcade qui sont.
C'est vrai.
Tu regardes Rigard. J'ai pas eu la chance, ou peut-être que j'ai eu la chance de pas croiser le jeu qui a été fait sur PS2 et Wii, puisque les deux sont. Enfin, la version est sortie sur les deux consoles. Mm-hmm. Mais Rigard, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Tant en arcade que la version NES.
La version NES infinissable.
Voilà. Mais en version euro.
Oui, oui, on est d'accord.
US, je crois que c'est, la Jap, c'est faisable. La US, je suis pas sûr. Je crois que l'US et l'euro, c'est la même.
La version PAL est pas... Enfin, apparemment, il existerait un bug qui permet d'outrepasser le dernier boss.
Parce que logiquement, le dernier boss, pour l'avoir vécu, parce qu'on a passé quelques temps avec mon poteau pour essayer de le finir. Pour le dernier boss, tu es obligé de te faire toucher pour pouvoir le toucher. Mmh. Et le problème, c'est que tu n'as pas assez de points de vie pour pouvoir le toucher assez
pour qu'il meure,
pour pouvoir le tuer. Et c'est parce que je sais plus si c'est la version US ou Jap, mais c'est l'une des deux où c'était trop facile, donc ils ont réduit les points de vie. C'est con, ils ont pas pensé à compter les points de vie, donc t'as pas assez de points de vie pour pouvoir.
C'est-à-dire que la version japonaise, le personnage possède 12 cœurs, on va dire, d'énergie, alors que la version US et Euro, il n'en a plus que 8. Donc voilà. Mais apparemment, comme je te dis, il existe un bug, ça se voit maintenant. On peut finir la version euro moyennant ce bug assez compliqué à réaliser. Il y a des Toolasticide speedrun qui le prouvent, mais ça reste quand même assez inaccessible pour le commun des mortels. Donc
surtout pour les gamins de 10 ans.
Pour les gamins de 10 ans à l'époque. Alors juste pour finir, je te remercie de ton intervention. Un dernier mot peut-être à part Wing Commander, je te demande de choisir un et un seul jeu de l'âge d'or de l'arcade, comme tu l'as dit, qui n'a qu'un seul épisode, un seul, et que tu aimerais voir renaître aujourd'hui, ça serait quoi?
Une cueille à froid, là. Team Gaia 3. Tu sais, moi, dans les licences de l'arcade, j'ai des goûts simples. Ah si, Black Tiger.
Ah, je savais que t'allais dire ça.
Mais oui, Black
Tiger.
Je
savais que t'allais dire ça.
Ouais, j'ai pas pensé à moi.
Un petit Black Tiger aujourd'hui, ça ferait du bien, non?
Ouais, mais tu sais, même dans l'état ressorti sur le XBLA, why not, hein.
Personnellement, moi, j'attends toujours le remake de Toki, qui ne cesse pas de mourir et de revivre au fur et à mesure des annonces ouais. successives. Donc,
Ouais, mais c'est bon, Kickstarter va te sauver. Mm.
On verra bien.
Voilà, ce sera peut-être le Steam Green Knight. Ouais, c'est possible.
On verra.
Mais tu sais que je suis déçu, ça fait quelque temps qu'on n'a pas eu d'Instant Remake.
C'est vrai.
Mais on parle de reboot et tout le reste, c'est tout à fait pour lui, ça. Et tu te rends compte qu'il n'a pas aimé Double Dragon, parce qu'il n'aime pas la musique de Cyndi Lauper. Je pense qu'il nous coûte quelque chose. Hein. Faudrait quand même qu'on pense à envoyer quelqu'un chez lui pour vérifier si tout va bien.
Il faudra qu'il nous donne son adresse, effectivement. Bon, c'est sur ces bonnes paroles que je vais te quitter, car je te remercie d'être passé dans ce gros cast un peu particulier pour cette deuxième saison. Ben, sur ce, je te souhaite une bonne soirée et puis je te dis à la prochaine pour un prochain gros cast, car je pense que tu traîneras encore dans les parages.
Alors, ce premier gros cast de la deuxième saison touche à sa fin. Avant que l'on ne se termine, comme de coutume, avec un gros mix, cette fois-ci dédié aux Great Giana Sisters qui font leur grand retour sur PC, comme nous l'avons dit auparavant, toute l'équipe et moi-même tenons à nous excuser du format un peu particulier que prend ce gros cast aujourd'hui, format dû principalement à divers problèmes techniques et organisationnels que nous avons rencontrés le long de son élaboration. Sachez que pour le prochain numéro, nous reviendrons à une formule plus traditionnel, avec discussion sur un jeu en particulier et ensuite débat ouvert avec plusieurs participants et membres de l'équipe. Nous réfléchissons d'ailleurs à un moyen de légèrement modifier la formule du Grocast. Nous vous en dirons plus au moment venu. Sachez également que nous sommes maris de ne pas avoir pu justement faire un débat comme nous voulions le faire sur la question du reboot, du remake et du revival. Alors, bien sûr, nous attendons à ce que vous réagissiez sur ce que Chapeau Paye, Karl et moi-même avons pu dire au cours de ces rapides entrevues. N'hésitez pas à faire part de vos expériences dans le domaine, voire à apporter des précisions terminologiques. Nous pensons revenir un peu plus tard dans le courant de cette saison sur ce sujet, peut-être même en vous faisant participer, vous, membres de Groupe Pixel et auditeurs et lecteurs assidus du site, mais encore une fois, c'est un projet que nous élaborerons en cours d'année et nous vous tiendrons bien entendu au courant. D'ici la prochaine émission, qui devrait arriver dans quelques semaines, nous vous souhaitons bien évidemment une bonne rentrée, nous espérons que celle-ci s'est bien déroulée, et nous vous disons à la prochaine fois pour de nouvelles aventures. À très bientôt.